sommes de retour dans les studios de CFLX à l'émission La Rage du Peuple. On a maintenant M. Robin Philpott avec nous, avec Franck Poul, M. Francis Poulain du CREMI. Et M. Robin Philpott, vous êtes venu par l'invitation du CREMI nous parler de votre livre « Derrière l'état des marais ». Power. Donc, si on peut commencer par l'invitation du CREMI, dans quel contexte, quel organisme organise l'événement, puis par la suite, on va pouvoir passer à notre invité spécial.
OK, bien, tout simplement, Collectif régional d'éducation, médias d'information, on a décidé, vu que c'est quand même, ça fait quand même depuis les années 60 qu'il y a une convergence médiatique qui a été... amené par divers individus au Québec. Et puis, on trouvait ça tout à fait normal avec la sortie du livre de Robin de couvrir régionalement cette question-là parce qu'en région, on est tout de même victime de cette concentration-là de la presse et des médias. Fait que nécessairement, il faut développer cet esprit critique-là. Puis le livre... de M. Philpott tombait juste à point, je dirais, sur cette question-là, puisqu'il y avait, il y a très peu d'informations, mais je pense que Robin pourra en parler, mais il y a très peu d'informations sur la question. Donc, on sait qu'il y a convergence, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette convergence-là? Mais là, c'est ce qu'on pourra, c'est ce qui est développé dans le livre, c'est ce qu'on pourra savoir à soir.
Super. Et on vous écoute, M. Philpott. Vous me disiez tout de suite avant de commencer, tout de suite avant d'entrer en onde, que vous êtes aussi animateur dans une radio communautaire à Montréal.
Oui, oui, ACBL, la radio communautaire de l'Est de Montréal, Radio Montréal, on appelle ça. C'est un des pionniers de la radio communautaire. Puis ça fait quelques années. Puis d'ailleurs, j'ai commencé à faire cette émission-là avec d'autres. Mais maintenant, c'est mon émission, ça s'appelle « L'effet versant », l'autre versant de la montagne d'information. L'objectif, c'est vraiment de contrer la convergence parce que c'est une plaie de notre temps là, au Québec. C'est une affaire grave. Puis des fois, on ne mesure pas l'influence. Comment ça a une influence sur nos
sur la qualité de l'information.
Sur la qualité de l'information et sur les tas de questions là, qu'on va se poser là, sur notre avenir collectif. Politique, économique et autres. Alors, donc, voilà, c'est pour ça que j'ai été aussi... je fais de la radio communautaire aussi.
OK.
Mais ce livre-là, on peut dire que c'est un peu la même démarche. Ce livre-là, j'ai mis un an et demi pour essayer de cerner qu'est-ce que c'est Power Corporation.
Un an et demi? Et
un an et demi de recherche.
OK. Bon,
et rédaction d'un livre. Et j'ai pris cette idée de l'état des marais.
OK.
Ça veut dire un État dans un État, une entreprise qui a plus de pouvoir que l'État lui-même, l'État okay. du Québec.
Ben oui.
Et c'est pas moi qui ai inventé cette idée-là, c'est une idée qui a été lancée en 1968
okay.
à l'Assemblée nationale du Québec. On parlait de cet État dans l'État qui était Power Corporation.
Déjà à cette époque-là?
Au moment où il a acheté la Tribune, je pense que c'était à ce moment-là, mais au moment où il a acheté la presse, puis il voulait mettre la main sur le soleil.
Okay.
Et donc, c'était Yves Michaud qui était député libéral à l'époque de Saint-Hyacinthe et qui était libéral, puis on demandait une création d'une commission d'enquête là-dessus et ça a été créé par l'Union nationale aussi. Alors, cette commission d'enquête sur la concentration des médias et en particulier la concentration dans les mains de Paul Desmarais. Et donc, c'est une idée qui revient. Et puis, en 72, Pierre Godin, qui est le biographe de René Lévesque, on va regarder ce soir, les gens vont regarder ce soir de nouveau son l'émission de René, sur René Lévesque, mais c'est d'après la biographie de Pierre Godin. Et puis, en 72, il a dit, le groupe Desmarais Power occupe une position dominante pour influencer l'orientation constitutionnelle, économique et sociale de l'État québécois actuel et futur. Donc, en 72, on parlait de ça. Puis je dirais, on s'est endormi. On n'en parlait plus.
Ça n'a pas disparu, le problème est continué, mais on arrête d'en parler.
Et ça a empiré. Ça a okay. empiré parce que parallèlement à ça, vous avez eu une concentration avec Québecor. Québecor est né...
parallèlement?
Mais lors de la grève de la presse en 72, le Journal de Montréal a vraiment pris son élan à ce moment-là. Mm-hmm. Mais maintenant, on est dans une situation désolante où on a deux familles. On a Québécois, puis on a, ensuite on a Desmarais et Jessica, et Radio-Canada qui travaillent ensemble. Alors, ça fait que le paysage médiatique est extrêmement désolant. Et l'autre idée de l'État Desmarais, c'est en fait M. Parizeau qui avait, entre autres, lancé cette idée-là à la veille du référendum. Et il disait que dans les années 80, on avait ce qu'on appelait l'État Provigo, parce qu'on avait cette Québec Inc. qui prenait une place. Puis il dit là, en 95, c'est l'État Desmarais. Et le premier et Daniel Johnson, le premier ministre chrétien à l'époque, il n'écoute pas les Québécois et les Québécoises, il écoute la famille Desmarais.
Okay.
Alors, c'est une idée qui est continue, mais l'absence d'informations sur cette famille-là, sur cette entreprise-là, sur la façon dont il fonctionnait, était extrêmement surprenante. Et bon, ben là, j'essaie de combler ce vide-là, puis d'arriver avec un peu une analyse de quelle est son influence, quels sont ses intérêts, et à quel point les Québécois doivent prendre conscience que leurs intérêts et les intérêts de Power, c'est pas convergent.
OK, c'est pas... Okay.
Non. Alors, ils ont des intérêts comme une entreprise privée, avec des intérêts notamment dans la privatisation de la santé, parce que le vache à lait de Power, c'est les assurances. Et la seule façon d'augmenter les profits là-dedans, c'est de la privatisation de la santé.
OK.
Et leurs intérêts en Europe, c'est surtout le pétrole, le gaz et l'eau.
Ça, c'est encore Power Corporation.
Power Corp n'a plus d'intérêt au Québec. À part ces journaux-là, zéro.
OK.
Depuis 89, il a vendu la perle de son empire au Québec, qui était la Consolidated Bathurst, donc la plus grande papetière québécoise, après avoir profité des largesses de l'État et du peuple québécois pendant un demi-siècle. Il a vendu pour 2,3 milliards. Il a pris cet argent-là, puis elle a investi partout, sauf au Québec. Donc, c'est là qu'il est devenu dans les ligues majeures internationales. Donc, sur le plan économique, son rôle au Québec est très limité. Mais sur le plan politique, son pouvoir est démesuré, est énorme.
Oui, je pense que M. Paul Desmarais a même un manoir dans Charlevoix dans lequel il reçoit, comme par exemple Nicolas Sarkozy, aussi des
le
ministres.
Le roi de la Belgique, les pères Bush, la famille Bush.
Le ministre de l'essence d'Arabie Saoudite. Non,
il s'entoure de ces gens-là. Et il y a une influence politique énorme dans le monde. Quand je suis allé en Europe pour faire des recherches, j'ai rencontré un journaliste économique français qui disait le seul homme d'affaires européen qui se compare à lui, c'est Silvio Berlusconi.
Ah ouais.
Ouais. La différence, c'est que Berlusconi fait de la politique ouvertement et lui le fait en arrière et tire des ficelles. Et je pense que, tu sais, le monde commence à se rendre compte. J'espère que ce livre-là va aider. Mais on a eu deux événements depuis un mois. L'arrivée de Sarkozy, où il insulte la moitié de la population en disant que c'est des gens fermés.
Quand il est venu au Québec.
Insulté tous ceux qui auraient voté oui. Ont voté oui. Vraiment une insulte incroyable.
Ouais.
Et ça, c'était vraiment une suite aux interventions de Desmarais. Là. C'est clair et net. Depuis 1995, Desmarais s'est approché de lui. Puis là, il a gagné une manche dans cette bataille sur l'avenir du Québec. Ensuite, vous avez l'histoire de la Caisse de dépôt. Le rôle de Desmarais n'est pas si visible que ça. Sauf que Henri-Paul Rousseau savait fort bien que ça allait vers la catastrophe à la Caisse de dépôt. Mmh. Il le savait. Au mois de mai, il a quitté la barque et qui est-ce qu'il a ramassé? C'est Power Corporation.
Okay,
il est rentré là.
Il est allé acheter beaucoup de parts dans la Caisse de dépôt ou il a redirigé la Caisse de dépôt par soi-même?
Bien, il dirigeait la Caisse de dépôt puis ça n'allait pas bien.
Okay.
Ça n'allait pas bien. Il avait investi beaucoup à Power Corporation, des montants énormes. Mais il savait que ça allait mal. Et Desmarais, il est venu la rescaper, là. Lui a donné un poste décoratif. Donc, il est vice-président du conseil d'administration de Power Corp. C'est pas fort, ça. Et là, il se cache. Et là, quand c'est le moment pour les Québécois de savoir qu'est-ce qui s'est passé à la Caisse, qu'est-ce qui s'est passé à cette formidable institution qui peut être utile pour le développement économique du Québec. Au lieu de venir parler devant les institutions québécoises, devant les élus, il choisit d'aller à la Chambre de commerce de Montréal. Mm-hmm. Mais qui est la présidente de la Chambre de commerce de Montréal?
C'est Hélène Desmarais.
Hélène Desmarais.
OK, ouais, ouais.
Alors, il, vraiment, là, et ça, c'est tout coordonné avec le gouvernement Charest.
OK.
Alors, oui, oh, oui, oui, oui. Ce Charest avait... C'était une crise. Il fallait qu'il limite les dégâts. Donc, il organise ce genre de choses-là. Et c'est pas la première fois, Desmarais, j'explique ça, qu'il a déjà fonctionné comme ça. Il passe par la Chambre de commerce pour éviter de respecter un peu le processus démocratique québécois.
Okay.
Donc, c'est dans ces deux cas. Là, on a la nomination de Tessier. Ben, Tessier, sa filière Power, elle est là. Tessier était dirigeant de Gaz Métro. Et avec Gaz Métro et Gaz de France.
De Power Corporation.
Non, c'est pas ça, mais le projet Rabaska, qui est près de Québec, de gaz naturel liquéfié,
ouais.
C'est un projet, entre autres, de Gaz Métro et de Gaz de France. Alors, mais Gaz de France, c'est contrôlé maintenant par Desmarais.
Mm-hmm. Suite à une privatisation de Sarkozy, voilà. Une semaine après qu'il soit allé au manoir de Desmarais.
Ben, c'est un peu ça, c'est à peu près ça. À peu près ça. C'est
ça,
pas exactement,
ça,
mais c'est ça. C'est exactement
ouais,
c'est ça. Alors, c'est donnant. Puis là c'est, donc, Tessier est celui pour Gaz Métro qui a défendu Gaz Métro, l'histoire de Rabaska. Et donc, il y a son lien là. Donc il est. Je pense que si on creusait encore plus, on trouverait ce lien là. Donc, je pense qu'on a une situation où il est l'heure. Pour les Québécois, d'évaluer quels sont leurs intérêts, surtout avec la crise économique, puis essayer de distinguer leurs intérêts de ceux de Power Corporation.
Mmh. Guillaume, est-ce qu'on va aller faire une pause musicale?
Oui, puis j'en profiterai pour glisser un mot, puis dire que je crois que les intérêts du peuple ont toujours été diamétralement opposés à ceux de la bourgeoisie. Donc,
voilà.
On va écouter une chanson de Renaud, « Où est-ce que j'ai mis mon flingue? » Excusez-moi, c'est une chanson de Jacques Brel qu'on va l'écouter finalement.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui mord d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. on compte. Et puis, y a Farida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Farida. Même qu'on se dit souvent qu'on aurait une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas, enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas, on ne s'en va pas, monsieur, on ne s'en va pas, mais il est tard, monsieur, il faut que je rentre. Chez moi.
On est de retour dans les studios de CFLX à l'émission La Rage du Peuple. Nous sommes toujours avec l'entrevue avec Robin Philpott. Donc, nous parlions de l'influence de l'État des Marais, donc l'État privé au sein de l'organisation publique. Je me demandais, M. Philpott, comment est-ce qu'on peut mettre en perspective le pouvoir de Paul Desmarais sur, on a parlé tout à l'heure de la Chambre de commerce de Montréal. Sa fille est présidente de la Chambre de commerce de Montréal.
Ça brûle.
Mm-hmm. OK, ouais, c'est Hélène Desmarais. Ouais, c'est bon. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres institutions qu'on peut affilier à l'Empire Desmarais? Et comment est-ce que, mettons, par rapport à Pelado, c'est quoi le jeu avec Conrad Black et tout ça?
Il y a plusieurs commentateurs canadiens-anglais qui disent que Paul Desmarais, c'est l'homme d'affaires, Paul Desmarais, puis là, je dis le fils Paul Desmarais, puis l'autre fils André, là, on parle de, mettons, de la famille.
OK, parce qu'il y a plus qu'un Paul Desmarais.
Oui, il y a le père qui a 80 ans, là, okay. Proche de Sarkozy, mais il y a le fils Paul Desmarais Junior, qui a un domaine pas loin d'ici,
à Magog.
Magog. Mais il disait que c'est l'homme d'affaires canadien qui a le plus de pouvoir politique au Québec et au Canada. Donc, okay. J'ai remarqué, c'est qu'il a une vision politique très à droite, hein? Mm-hmm. Très à droite, plus okay. À droite que l'image qui est souvent diffusée à son sujet. Il est beaucoup plus pro-Reagan. Reagan, c'est son héros. Hein? Et comment il exerce sa politique? Ben, il y a une présence de sa famille et des gens proches de lui un peu partout. Et on mentionnait Hélène Desmarais, qui est un peu partout, vraiment. Là. Elle est présidente de la Chambre de commerce, présidente du conseil de HEC Montréal,
ouais,
présidente de l'Institut économique de Montréal.
Donc, qui fait les études, qui propose la privatisation tout le temps.
De la santé.
Ouais, mm-hmm.
Et puis, ils sont toujours là, ils sont toujours en train d'attaquer. Mais bon, il influence ça. L'Institut, vous connaissez peut-être Michel Nadeau, qui est souvent interviewé à la télé, l'Institut sur la gouvernance des organismes mm-hmm. publics et privés, elle est dans le conseil d'administration. Donc, ils sont présents un peu partout. Ça ne veut pas dire qu'ils contrôlent totalement, mais ils compromettent des gens. Okay. Et une personne que j'ai interviewée qui a demandé l'anonymat, mais je vous dis que c'est une personne très, très respectée et très bien placée dans le milieu des affaires au Québec, a dit Paul Desmarais a toutes sortes de façons de compromettre des gens. Les offres de position, des postes, des ouvertures, des invitations, toutes sortes de façons de faire en sorte que les gens, un peu, sont dans sa poche. Ils sont influencés, ils ne vont pas l'attaquer. Et si vous remarquez sa façon de fonctionner avec des gens qui sont, bon, éventuellement, pouvoir être premier ministre ou avoir une influence politique, ce qu'il fait, c'est qu'il quand ils sont dans un creux politique, Le cas de Sarkozy est clair. Mm-hmm. Sarkozy a perdu en 1995 parce qu'il avait appuyé le mauvais poulain. Là. Il avait appuyé Balladur contre Chirac. Et c'est à ce moment-là que Desmarais est devenu proche de lui. Il a fait la même chose avec René Lévesque en 1973, mais Lévesque a refusé. En 1973, René Lévesque a perdu l'élection. Il était dans un creux. Et Desmarais, par le biais de la presse, lui offre un poste de 100 000 $ pour être un grand reporter. L'évêque a refusé. Mais l'attitude, l'idée, c'est de tu les prends quand ils sont dans un creux.
À ce titre-là, sur Wikipédia, on apprend que Paul Desmarais était l'ancien employeur de Pierre-Éliott Trudeau, Jean Chrétien, Paul Martin et Brian Mulroney.
Petits... Trudeau a commencé sa campagne à la direction du Parti libéral dans les bureaux de la chose. Je raconte ses liens avec Daniel Johnson, père. Mm-hmm. Père. Daniel Johnson, fils, qui était premier ministre par la suite, son seul emploi était avec Power Corp jusqu'à temps qu'il se lance en politique. Non, mais c'est vrai, là, c'est clair et net. Paul Martin travaillait pour lui. Brian Mulroney était son avocat d'affaires dans les relations de travail avec la presse. Alors, il avait ces gens-là, sinon contrôlés, mais... Et puis bon, Jean Chrétien, quand il a perdu en 84 aux mains de John Turner... Il est rentré dans les conseils d'administration d'entreprise de Power. Bon, puis sa fille est mariée au fils d'André, de Paul Desmarais. Donc, c'est une pieuvre tentaculaire, comme disent certains. Donc, il influence la politique, mais c'est l'influence soft. Là.
Il tire vraiment des ficelles. Là.
Il tire des ficelles. Littéralement. Il tire des ficelles. Il fait en sorte que les gens se taisent. Et jusque dans les... Et là, on n'a pas parlé des médias, beaucoup, mais quand on pense que 70 % de la presse écrite au Québec lui appartient, là, y compris la Tribune de Sherbrooke, on ne verrait pas dans ces journaux une critique de cette entreprise-là.
Okay.
Dans ce livre-là, mon livre, il n'y a même pas eu de recensement ou d'identification, ne mention dans aucun journal, à ce que je sache, qui appartient à Jessica. Et parallèlement, comme ils ont des ententes secrètes, des ententes avec Radio-Canada, Radio-Canada, c'est presque le silence aussi de là-dessus. Alors, vive la radio communautaire.
Puis à ce niveau-là, je vous poserai la question suivante, à savoir, est-ce que vous avez envisagé peut-être l'éventualité d'un slap de la part de Power Corporation?
Il y avait... écoutez, on a fait attention, on a fait vérifier ça par un avocat spécialiste, puis... Mm-hmm. Je tenais à ce que le livre sorte, parce que Paul Desmarais avait dit, il a cité dans plusieurs journaux, il a dit, si un livre sort sur moi et il est bon, j'achète 500 copies. S'il n'est pas bon, je les achète tous. Alors, mon éditeur était prêt, là, parce que là, il aurait fait de l'argent. Mais donc, ils avaient le choix ou bien de poursuivre ou bien de faire un semblant que ça n'existait pas. Donc, c'est ça qu'ils ont choisi, là. Parce que, bon, ben, il y avait peut-être. Moi, j'ai fait attention de ne pas laisser de prise. Mes sources sont documentaires, sont sûres. Et je ne m'emporte pas. Je laisse au lecteur le soin de s'emporter en le disant. Alors, je ne m'emporte pas avec un vocabulaire excessif, là.
Ouais, ça ne vaut pas la peine. Donc, je pense que c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement.
Donc,
j'ai
une conférence ce soir.
Ben oui, allez-y.
Oui, c'est ça. Il y a une conférence au tremplin 16:30 pour les personnes, les auditeurs, auditrices qui seraient intéressés à en savoir plus à 19h au tremplin 16:30, 95 Wellington Sud. C'est gratuit. Puis c'est ça.
Je veux dire, le titre du livre, là, c'est « Derrière l'état des marais, Power », publié aux Intouchables, puis disponible... Je l'ai vu dans les librairies ici à Sherbrooke, puis partout au Québec.
Là. Dans les librairies indépendantes de Sherbrooke, on en a fait mettre la semaine dernière.
Ah oui, OK, c'est bon, il n'était pas encore.
Dans les grosses librairies, oui, mais dans la petite librairie juste ici sur Wellington, maintenant, c'est là.
Ben formidable.
Ça. Voilà.
On vous remercie beaucoup d'être passé puis d'avoir pensé à nous, à votre passage à Sherbrooke.
Merci de m'avoir invité.